Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Nous sommes le lundi 2 mars 2026. Des explosions entendues au petit matin, un mort à Bahreïn dans une frappe iranienne. Des explosions entendues à Doha, au Qatar, à Abu Dhabi, à Jérusalem. Israël qui, de son côté, annonce frapper le Liban. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans le chaos du Moyen-Orient. La guerre qui pourrait durer plus d'un mois. Voici l'annonce de la nuit de Donald Trump. Dans 10 minutes, nous serons en direct avec une franco-iranienne pleine d'espoir, vous allez l'entendre après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ce week-end. Nous ferons aussi un point sur la situation militaire avec le général Dominique Trinquant. Et puis vous, au standard d'RMC, vous habitez peut-être la région, vous êtes coincé sur place, vous êtes en vacances ou vous y vivez, vous avez de la famille peut-être sur place aux Émirats, en Israël, au Liban. Est-ce que la situation vous inquiète? Est-ce que vous craignez que ça touche directement la France? Je vous précise également que le niveau de sécurité en France a été élevé également. C'est l'annonce du ministère de l'Intérieur. Vous nous racontez tout au 32-16, vous réagissez. On vous attend aussi sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424 à 8h30. C'est le spécialiste des conflits armés, Alain Boer, qui fera le point avec moi sur RMC et BFM TV. Il est 6h59, dans un instant le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo, Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Apolline.
Du soleil pour presque tout le monde.
Effectivement, un temps très sec, très ensoleillé sur tout le pays, à une exception près, le pourtour méditerranéen, où là vous aurez des nuages et des averses entre Languedoc, Cévennes, Provence et Corse. Et puis un petit voile de nuages s'installe aussi entre le sud-ouest, les régions centrales et la Normandie. À noter le vent d'autant qui souffle et qui se renforce jusqu'à 80 km/h en rafale sur la plaine toulousaine notamment. Les températures un peu fraîches ce matin dans l'est, 0 degré à Metz, 1 à Strasbourg, mais une très grande douceur partout cet après-midi, température digne d'un mois d'avril, avec souvent entre 15 et 18 degrés, 17 à Paris et à Strasbourg, et jusqu'à 20 degrés à Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC. Très bon lundi à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Au troisième jour du conflit iranien, les pays du Golfe encore ciblés par Téhéran tôt ce matin. Le conflit s'étend et se propage à toute la région avec des échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël. Nous irons à Jérusalem dans ce journal. Nous irons aussi aux États-Unis avec Donald Trump qui promet de venger les trois militaires américains tués dans l'opération. Le président américain qui tente de justifier ces frappes, et vous entendrez ces Iraniens en France inquiets pour leurs proches restés en Iran.
L'Iran reprend ses frappes ce matin au Moyen-Orient.
Des explosions entendues très tôt à Doha, à Dubaï, à Manama. Une personne est morte à Bahreïn, portant à 5 au moins le nombre de victimes dans les pays du Golfe depuis samedi matin. Et les raids américano-israéliens menés sur l'Iran, un conflit qui se propage, je vous le disais, désormais au Liban, ciblé cette nuit par l'armée israélienne qui a poursuivi ses frappes au-delà de Téhéran, appelant les habitants du sud-Liban à fuir, promettant d'intensifier ses frappes en réplique aux tirs du Hezbollah libanais qui ont visé Israël. Sur place en direct ce matin, Stéphane Amar, correspondant RMC à Jérusalem, où des explosions ont été entendues ce matin.
Oui, après une nuit relativement calme, Jérusalem s'est réveillée ce matin au son des sirènes. Il s'agit déjà de la deuxième alerte depuis ce matin. Nous nous sommes donc rendus aux abris. Pour l'instant, aucun dégât majeur n'est signalé, mais la ville reste extrêmement calme. Les écoles sont fermées. Les habitants sont invités à rester chez eux et à travailler à distance. Seuls les commerces alimentaires restent ouverts. Un nouveau front a été ouvert au nord du pays, où l'on est en état d'alerte avec le Hezbollah qui semble rentrer dans cette confrontation.
Une déclaration conjointe avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, la France a appelé l'Iran à mettre fin à ces attaques inconsidérées. Une réunion va se tenir au Quai d'Orsay ce matin pour évoquer le sort des ressortissants français dans les pays du Golfe ciblés par l'Iran. C'est une priorité, dit Emmanuel Macron en marche d'un deuxième conseil de sécurité hier soir. Et c'est depuis la base navale de l'île Longue à Brest que le chef de l'État va prononcer cet après-midi son discours sur la dissuasion nucléaire. Prévu de longue date, cette prise de parole est encore plus attendue dans le contexte international.
Et c'est justement dans ce contexte que Donald Trump a aussi une nouvelle fois pris la parole hier soir.
Et on va retrouver Antoine Lard. Vous êtes le correspondant RMC à Washington, Antoine, allocution très courte du président américain qui a tenté de justifier dans une vidéo sur son réseau social l'opération américaine en Iran.
Écoutez, d'abord, Donald Trump cherche à convaincre l'opinion américaine. Il sait que cette guerre est impopulaire, y compris dans son propre camp. Dans un sondage, on voit que 27% des Américains seulement soutiennent les frappes, et ce soutien déjà très faible pourrait s'éroder encore davantage si les États-Unis subissent des pertes supplémentaires. Il y a déjà eu 3 morts côté américain. Trump a mis très longtemps à rendre hommage à ses soldats tués dans une frappe iranienne. Il finit par saluer leur sacrifice au service d'une cause noble. Trump, par ailleurs, commence à donner un horizon à ce conflit. L'opération sera terminée au plus tard d'ici 4 semaines, dit-il. Clairement, il ne veut pas d'un conflit qui s'enlise, d'un nouveau bourbier. Et c'est dans ce contexte qu'il s'adresse aussi aux Iraniens, aux gardiens de la Révolution en particulier. Il leur demande de déposer les armes en échange d'une immunité, faute de quoi vous connaîtrez une mort certaine, assure le président américain. Une façon, il l'espère, d'accélérer la chute définitive du régime.
Des propositions de négociation rejetées ce matin par le régime iranien qui accuse Donald Trump de plonger la région dans le chaos avec ses rêves illusoires. Le président américain qui dit au New York Times avoir 3 très bons candidats pour diriger l'Iran. Le pays qui se prépare à la succession d'Ali Khamenei, tué dans les frappes américano-israéliennes ce week-end avec une 40aine d'autres hauts membres du régime iranien. La chute de l'ayatollah célébrée dans plusieurs villes du monde hier, comme à Paris où la diaspora iranienne s'est rassemblée. 4000 personnes ont manifesté, non sans inquiétude pour la suite et pour leurs proches. Restez en Iran. Caroline Renaud était à leur côté pour RMC.
Au milieu des chants à la gloire de l'Iran, Mina relie le dernier message reçu de sa cousine. C'était peu de temps après la confirmation de la mort d'Ali Khamenei.
À Téhéran, les gens sont en train de crier et fêter la mort du grand Satan.
Jeannette aussi est parvenue à avoir des nouvelles de ses proches après des heures d'angoisse.
J'arrivais pas à les appeler, même sur les fixes. J'ai reçu un message de mon neveu comme quoi, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'étais rassurée.
Depuis, les communications sont redevenues difficiles, voire impossibles. Elle attend encore un message de ses sœurs.
Mon téléphone, en ce moment, c'est tout le temps. Même la nuit, à côté de mon lit.
Le téléphone de Cambise, lui, reste désespérément silencieux. Voilà 4 jours que son frère ne l'a pas contacté.
On appelle, ça sonne dans le vide. Il coupe toutes les communications. Il n'y a rien à faire. Quand même, c'est inquiétant. Hein.
À côté, une autre Iranienne, elle aussi, sans nouvelles. Les larmes aux yeux, elle craint que la République islamique d'Iran ne redouble de violence. Un animal blessé peut attaquer de toute sa force, dit-elle.
Et dans ce contexte, on a appris qu'une fusillade aux États-Unis a fait 2 morts et 14 blessés hier à Austin, au Texas. L'auteur présumé des tirs abattu par la police a été identifié comme favorable au pouvoir iranien. De potentielles attaques redoutées en France. Laurent Nunez appelle les préfets et les autorités à la plus grande vigilance et à renforcer la sécurité autour des lieux de culte juifs. Constance Postohen.
Oui, alors que la fête religieuse de Pourim débute ce soir, le ministre de l'Intérieur appelle les préfets, les directeurs de la police et de la gendarmerie et la directrice de la DGSI à renforcer la sécurité autour des lieux de culte juifs et des rassemblements religieux israélites. Une sécurité qui doit passer selon lui par des dispositifs adaptés localement en fonction du niveau de risque. Ces indications interviennent 24 heures après l'envoi d'un premier télégramme dans lequel Laurent Nunez avait demandé la mise en vigilance des forces de l'ordre en France pour, je cite, détecter toute action susceptible de troubler l'ordre public. Il demandait au préfet notamment de signaler aux services de renseignement toute tentative d'ingérence étrangère.
À retenir également ce matin le procès de Tariq Ramadan, jugé à Paris pour viol sur 3 femmes entre 2009 et 2016, des faits que le prédicateur conteste. Il est 7h07, vous écoutez RMC, de nouvelles accusations d'antisémitisme qui visent Jean-Luc Mélenchon au cœur de la polémique. Après avoir ironisé la semaine dernière sur la prononciation du nom du pédocriminel Jeffrey Epstein, le chef de file des Insoumis a réitéré hier dans un meeting au soutien du candidat LFI à Perpignan, s'attaquant cette fois à Raphaël Glucksmann dans la salle pour RMC, Cyprien Pézril du service politique.
Devant les siens, longuement, Jean-Luc Mélenchon se défend de tout antisémitisme. Puis au détour d'une phrase, il cite le nom de son concurrent de gauche.
Gauche, comme monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore. Glucksmann, pardon. Après, j'en ai pour des heures, quoi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans pas plus d'une minute, hein. Ça va pas traîner.
Dans la salle acquise à sa cause, la remarque passe inaperçue, mais plus tard, Raphaël Glucksmann partage l'extrait sur les réseaux sociaux et renomme Jean-Luc Mélenchon Jean-Marie Le Pen. Ce n'est plus un dérapage, mais une stratégie qui dérive sur les eaux noires de l'antisémitisme, dénonce aussi le patron du PS, Olivier Faure, sans pour autant remettre en cause les alliances locales de son parti avec LFI au municipal. Une nouvelle polémique après celle sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein. Ces accusations sont infondées, répondent les troupes du leader insoumis. Un député jure qu'il n'y a pas de mauvaise intention, que rien n'est préparé. Jean-Luc Mélenchon n'écrit pas ses discours en amont, mais cet élu de reconnaître du bout des lèvres, je cite, que c'est malheureux et maladroit.
L'absence de vaches au salon de l'agriculture qui a sûrement pesé sur la fréquentation de l'événement, en baisse de près de 28% avec 437 000 visiteurs.
RMC 7h08, l'OM remporte le duel des Olympiques.
Mené par deux fois, les Marseillais ont renversé Lyon pour finalement s'imposer 3-2 hier soir au Vélodrome grâce à un doublé du vétéran Pierre-Emerick Aubameyang. Heureux hier soir, écoutez.
Beaucoup de jeux, beaucoup de plaisir, beaucoup d'intensité. En tout cas, c'est ça le discours. Donc on suit et on avance. Il y a encore pas mal de points à prendre dans le championnat. Si on retrouve le cap et qu'on avance dans ce sens-là, comme ce soir, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et en championnat et en Coupe de France.
Et quatrième ce matin au classement, l'OM revient à 2 points de Lyon, l'OL et l'OM qu'on va retrouver cette semaine en Coupe de France respectivement opposés à Lens et à Toulouse.
Et je vous précise que l'After Foot sera ce soir à Aubière, à côté de Clermont-Ferrand pour les 20 ans de l'émission. Rendez-vous à 22h, émission en direct et en public. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va poursuivre sur la guerre au Moyen-Orient. Alors que les bombardements se poursuivent, la mort de l'ayatollah Ali Khamenei peut-elle libérer le peuple iranien? Bonjour Hilda Degani. Vous êtes militante franco-iranienne. Vous avez fui l'Iran dans les années 80 avec vos parents. L'opération israélo-américaine fait naître dans la population iranienne de grands espoirs. C'est votre parti pris, vous le défendez dans un instant sur RMC. Il est 7h09.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Ce que vous entendez là, à l'antenne, ce sont les cris de joie ce week-end à Téhéran, des habitants qui se réunissaient spontanément après l'annonce de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Après 50 ans de règne sanglant, ultra-religieux, le régime des Mollahs peut-il être renversé? On va se poser la question ce matin avec vous, Hilda Degani. Bonjour. Vous êtes militante franco-iranienne. Vous avez fui l'Iran à l'âge de 13 ans avec vos parents. Vous êtes en contact permanent avec les Iraniens sur place. Un immense espoir est en train de naître. C'est votre parti pris ce matin. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si ces manifestations qui ont eu lieu ce week-end, j'imagine qu'elles se font de manière prudente, mais en même temps, ce sentiment, il est partagé par une vaste majorité de la population?
Oh oui, bonjour, merci de donner la parole. Écoutez, oui, c'est une joie et un espoir immense qui est né, l'espoir de voir enfin ce pays libéré. J'ai eu la chance d'avoir quelques contacts. Après les frappes, les téléphones ont été coupés à peu près une heure après le début des frappes. Mais avant cette coupure et avant la coupure Internet, j'ai eu des contacts avec des Iraniens dans différents endroits. Et vraiment, tout le monde était soulagé de voir enfin peut-être un espoir de mettre fin à ce régime grâce aux attaques des alliés, aux attaques des libérateurs. Et c'est comme ça que ça a été vécu. Et j'ai eu aussi un appel téléphonique miraculeusement hier à 11h20. Et c'est vrai que la personne est vraiment très proche des QG, des gardiens de la Révolution, physiquement. Mais sa voix était une joie immense de dire enfin, il y a un espoir. Donc oui.
Ce que vous voulez dire, et d'ailleurs vous le précisez, d'abord que évidemment c'est très compliqué, hein, les liaisons sur place sont complexes, à la fois parce que de toute façon il y a le conflit, mais par ailleurs aussi parce que le pouvoir iranien tente de continuer à contrôler en quelque sorte la population. Quand vous dites, et quand vous précisez que cet appel à 11h20 avec un de vos proches, qui est physiquement près du lieu où ont eu lieu notamment les bombardements, ça veut dire que malgré l'inquiétude pour sa propre vie, puisque j'imagine que lorsqu'on est proche de l'endroit où il y a eu un impact, eh bien, l'espoir est plus fort que tout cela. Il y a plus d'espoir que de crainte pour sa propre vie ou de crainte pour les conséquences physiques des bombardements.
Mais oui, mais parce que ça fait 47 ans que cette population, nous vivons, tous les Iraniens, et nous vivons dans l'angoisse permanente d'une mort qu'on ne sait pas comment éviter. Ceux qui meurent parce qu'ils ont pris un vol, ceux qui meurent parce qu'ils ont osé parler, ceux qui meurent parce que ils ont décidé tout simplement. En fait, c'est comme ça depuis 47 ans. Et moi, je peux vous dire que le nombre de personnes qui m'ont dit, même s'il faut qu'on meure, il faut que ça s'arrête, parce que de toute façon, notre vie n'est pas une vie.
Mettre fin à cette terreur, mettre fin à cette terreur. Il y a un mot que vous venez de dire, grâce au bombardement des libérateurs. Et on peut même le dire en préparant cette interview, vous nous avez même comparé en quelque sorte ces bombardements, aujourd'hui, les bombardements d'Israël et des États-Unis, au bombardement des Alliés en 1944. C'est-à-dire pour vous, c'est la même ampleur. C'est-à-dire que les bombardements des Alliés, vous faites cette référence-là dans votre esprit.
Ah mais clairement, et ce n'est pas moi qui fais cette référence, vous avez vu de nombreux Iraniens appeler au secours le monde libre. Comment est-ce que on peut encore faire croire que ce régime représente cette population? Comment on peut encore oser imaginer pouvoir négocier avec ce régime qui a prouvé être détesté par sa population, qui a prouvé que sa population et tout ce pays ne vaut rien pour lui, que c'est seulement son idéologie.
Quand vous dites, comment on peut encore imaginer négocier le président Macron lui-même, était extrêmement réservé au moment des frappes qu'il a tout de suite condamnées, appelant à la désescalade et appelant effectivement à une, je cite, négociation de bonne foi avec l'Iran.
C'est ça, la bonne foi. Qui ose encore, comment peut-il nous représenter français en tenant ces propos? La bonne foi en parlant du régime des Mollahs? Combien d'années ça fait qu'on négocie? Allons-nous nous faire croire? Avez-vous, Monsieur Drian, qui a passé des heures et des heures dans les négociations, a eu l'honnêteté de dire à quoi ça servait? Alors ça suffit maintenant de se cacher derrière une loi qui est là, qui serait là, une loi internationale pour protéger les tyrans, alors que des milliers d'Iraniens ont été tués le 8 et le 9 janvier. Personne ne s'est saisi des lois internationales de protection de cette population.
Le 8 et le 9 janvier, ce sont effectivement ces deux jours où il y a eu des massacres d'au moins 30 000 morts dans les rues de Téhéran. J'entends votre espoir immense, Hilda Degani. On a envie de pouvoir, dans les jours qui viennent, à nouveau vous appeler lorsque vous aurez davantage de nouvelles aussi de vos proches. Merci en tout cas d'avoir partagé. Je voudrais également qu'on puisse accueillir Raph au téléphone qui nous appelle au 32-16 de Mâcon. Bonjour Raph. Les conséquences de ces explosions, il y a un certain nombre de personnes sur place. Alors, il y en a certains qui disent effectivement leurs craintes. Et puis, il y a des influenceurs, il y a Élodie Gossuin qui ont fait des sortes d'appels un peu en larmes sur les réseaux sociaux. Ça vous a particulièrement choqué, Raph ?
Particulièrement, non, mais c'est un peu troublant quand même. D'avoir des concitoyens qui soient là-bas, qui soient bloqués, c'est gênant. Après, les gens qui partent actuellement là-bas, c'est un peu des foufous, parce que moi, si je vois le GIGN devant une banque, ben, j'y vais pas. Il y a un moment, il faut avoir aussi... Moi, je suis content quand même qu'ils aient fait quelque chose des États-Unis là pour contre l'Iran, parce que ça va être libérateur pour tout un pays, puis tout un peuple depuis, bah, comme la dame disait, là, 47 ans. Il y a le président, je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il tienne qu'il reste calme, enfin qu'il demande au calme et tout. C'est simplement parce qu'il a peur qu'il n'y ait pas des fadas en France qui pètent les plombs et qui fassent des attentats. À mon avis, c'est clairement ça.
Vous voulez dire que le message, il est plutôt vis-à-vis des Français. Le message d'Emmanuel Macron plutôt vis-à-vis des Français. Raph, un dernier mot, quand vous disiez ceux qui sont partis en vacances, c'est vrai qu'on a quand même de nombreux messages ce matin, notamment en référence à... alors il y a ceux qui sont partis vivre là-bas, hein, qui vivent désormais ce qu'on appelle les influenceurs à Dubaï. Et puis comment, pardon?
Moi je connais quelqu'un qui est là-bas.
Qui est là-bas et qui appelle la France à venir l'aider à repartir?
Ah bah il faudra, de toute façon il y a un moment, voilà, il est parti vivre là-bas, c'est un ressortissant français, il a ses papiers français, il faudra aller le chercher. Par contre, là, ce qui me gêne le plus, c'est ceux qui partiront peut-être, je sais pas, on va dire, demain en vacances. Ouais. Là, il y a des assurances de voyage à prendre. Il y a un moment, il faut se responsabiliser.
Ouais, l'appel à la responsabilité, effectivement. Raph, merci beaucoup d'être intervenu ce matin. Comme Raph, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Pendant ce temps-là, Notre historien du matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, on va continuer à parler des conséquences de cette guerre au Moyen-Orient avec vous. La guerre qui a touché pour la première fois, donc Dubaï, on le disait, et les Émirats Arabes Unis.
Oui, justement, on a vu ces vidéos d'influenceurs terrifiés sous les bombardements iraniens. Ce morceau de désert est devenu un centre économique et stratégique mondial, un modèle aujourd'hui qui est en péril, Apolline.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui est de retour, il va venir pirater le face-à-face, ne bougez pas. On se retrouve dans 60 secondes, il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps, comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, les Émirats Arabes Unis sont une victime collatérale de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Dubaï et Abu Dhabi ont été touchés par des missiles iraniens.
Oui, plus de 100 missiles et 200 drones tirés par l'Iran sur les Émirats. Ces attaques marquent la fin d'une époque et surtout la fin d'un modèle, celui des Émirats Arabes Unis. Un paradis du luxe, de la modernité, des affaires et de la fête. Une oasis de paix dans une région très conflictuelle. Eh bien, tout ça, c'est fini. Le carrosse s'est transformé en citrouille.
Les Émirats Arabes Unis, c'est une création assez récente.
Alors oui et non. En fait, ça existe depuis le début du 19e siècle. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas les Émirats Arabes Unis, ça s'appelait les États de la Trêve. Ça regroupait à peu près la même zone géographique que celle d'aujourd'hui. Ces États étaient en fait un protectorat britannique, donc en fait une sorte de colonie anglaise, si vous préférez. Mais en 1971, tout change. Les Émirats prennent leur indépendance et fondent leur propre pays, les Émirats Arabes Unis, qui regroupent donc sept Émirats. Et à la tête de chaque Émirat, vous avez un émir, c'est-à-dire un roi.
Et parmi ces Émirats, c'est Dubaï qui va d'abord faire parler de lui.
Oui, et Dubaï à l'origine, c'est pas grand-chose. C'est un petit port de pêche sans prétention, sauf que dans les années 60, on découvre du pétrole et du gaz, évidemment ça aide. Et là, Dubaï va avoir l'idée du siècle, investir l'argent du pétrole dans le tourisme, avec un objectif complètement fou, devenir une destination paradisiaque en plein milieu d'un désert aride et hostile. En 1979, le premier gratte-ciel sort de terre.
Depuis, ça ne s'est jamais arrêté.
Ah ben non, on construit partout, tout le temps, un symbole de cette démesure. Le Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, inaugurée en 2010, on la voit à 90 km à la ronde. Autre performance, la palme Jumeirah, un archipel de 5 km carrés entièrement artificiel au large de la ville et qu'on voit depuis l'espace. Pour ça, il a quand même fallu importer 94 millions de mètres cubes de sable, du délire total. Une statistique, en 2022, une grue sur quatre dans le monde était à Dubaï.
Incroyable. Oui. La capitale du pays, c'est pas Dubaï par contre.
Eh bien non, c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est l'émirat le plus puissant du pays. Ça, évidemment, il regorge de pétrole. Et alors lui, sa stratégie, c'est pas le tourisme, c'est la culture et l'éducation. Un de ses premiers partenaires dans ce domaine, c'est la France. Et Abu Dhabi va tout simplement dupliquer nos institutions, à commencer par l'université de la Sorbonne, qui ouvre une antenne dans l'Émirat en 2006, la Sorbonne Abu Dhabi. C'est ensuite au tour du Louvre de s'exporter dans le désert. En 2017, le Louvre Abu Dhabi est inauguré à son tour. C'était tout simplement le plus grand projet culturel de la France à l'étranger.
Est-ce que ce pays est capable de se défendre ?
Alors sur le papier, oui. Les Émirats, c'est un pays très militariste. Le service militaire est obligatoire. D'ailleurs, quand il a été lancé en 2014, l'émir d'Abu Dhabi avait déclaré au New York Times, je cite, « Je veux que tout le monde se sente responsable. Dans ce pays, il y a trop de gros qui ne foutent rien. » Fin de citation, voilà, c'était assez martial. De tous les pays du Golfe, les Émirats, c'est celui qui dépense le plus pour sa défense, avec plus de 60 000 soldats d'actifs. La France est d'ailleurs un allié très important puisque nous avons une base navale permanente à Abu Dhabi. Et hier, cette base navale a justement été touchée par des frappes iraniennes. Là encore, c'est une première. Une preuve de plus que l'ère de la paix aux Émirats, c'est désormais révolu.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Pour écouter les chroniques d'Arthur, vous n'hésitez pas à tout moment en podcast sur l'application RMC 7h25. On retrouve Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
On peut le dire, Arnaud, pour votre retour, je vous ai fait un petit cadeau.
Oui, ah oui.
Puisque c'est donc Alain Bauer que je reçois tout à l'heure à
8h30.
Eh ben c'est mal barré cette affaire, c'est mal barré. C'est pour ça qu'on reçoit Alain Bauer, c'est à cause de la guerre. Alors au départ, Apolline, sachez qu'on devait recevoir Ali Khamenei, mais il a eu un petit empêchement. On n'arrive pas à le joindre, c'est curieux, ça sonne occupé. Et le nouvel ambassadeur du régime des Mollahs, Rima Hassan, n'était pas disponible puisqu'elle va respecter 48 heures de deuil. Donc vous recevez l'oracle Alain Bauer, l'homme qui sait tout.
I sait tout. Vous saviez que si ChatGPT ne sait pas quelque chose, il demande à Alain Bauer.
Oui.
Alain Bauer qui est capable de faire varier le prix du baril de brut par la pensée.
Oui.
Alain Bauer qui sait si c'est l'œuf ou la poule en premier. Alain Bauer, quand il joue aux échecs, ça s'appelle les succès. Voilà Alain Bauer. L'avenir se demande parfois ce qu'Alain Bauer lui réserve. Quoi que vous pensiez, Apolline, Alain Bauer le pense mieux. Mm. Alain Bauer qui sort son livre de la semaine, Chine, la revanche de l'Empire, c'est chez Fayard. Alain Bauer, c'est France Loisir dans les années 80. T'as pas le temps de lire le dernier bouquin, on te voit déjà le suivant. Depuis le début de l'année, il a sorti Trump, les mots du pouvoir, une autre histoire du crime, son polar intrigue à l'ONU et le livre sur la Chine, on n'est que le 2 mars.
Oui.
Alain Bauer, c'est 20% de la déforestation à lui tout seul. S'il fait déjà 15 degrés là, c'est sa faute.
Oui.
Et donc, il viendra nous parler de la guerre.
Aimer, c'est ce qui est plus.
Bah c'est raté aussi, c'est la guerre. C'est normal qu'ils viennent nous voir, parce que dans des moments comme ça, on sort les experts. Vous avez vu, depuis samedi, BFM TV a invité des tonnes de généraux. On les a tous ressortis de la boîte. Hier, il y en avait un qui s'appelait... Non, hier, il y en avait un, il s'appelait le général Vigilant. C'est vrai, c'est ton vrai nom. Emmanuel Macron, il avait dit que la France n'avait pas été prévenue des frappes en Iran. Il a bien fait son boulot, le général Vigilant.
C'est quoi ce bordel? Personne n'a rien vu? Appelez-moi le général Vigilant. Pardon, j'étais sur Candy Crush. Il se passe un truc.
Il y avait aussi le général Vincent Desportes qui lui aussi a un truc rigolo. C'est pareil, c'est authentique. Il a fait un truc. Il a dirigé l'école de guerre. Mmh. Ça doit être dingue ça, l'école de la guerre. C'est-à-dire, le matin, t'as une leçon de guerre. Mmh. Le midi, un TD sur la guerre. Mmh. L'après-midi, il y a histoire de la guerre. Et à la fin de la journée, tu fais la guerre contre l'école de la guerre d'en face. Et les profs doivent être déprimants.
Prenez vos cahiers. On va faire une interrogation écrite comme vous n'en aurez jamais vu. Prenez une feuille à grands carreaux. Des carreaux qui me rappellent la petite fenêtre qu'il y avait dans ma cellule pendant que j'étais capturé par les Vietcong. Il y avait des cris partout, c'était horrible.
Ça peut être traumatisant pour les élèves. Mais pour l'heure, l'expert, c'est Alain Bauer. C'est pour la guerre et c'est à 8h30.
Merci
à tout à l'heure.
Arthur, on vous retrouve aussi à 8h20. Il est 7h28. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite. 7h30 et il fait beau, Anthony.
Oui, sur quasiment tout le pays, notamment sur les régions qui ont été impactées par les crues. D'ailleurs, on n'a plus de vigilance aux crues aujourd'hui. Ça fait un mois que ça n'était pas arrivé et donc le soleil va s'imposer quasiment partout. Sauf près de la Méditerranée, entre Languedoc-Roussillon, Cévennes, Provence et Corse, vous aurez des nuages, quelques averses et un vent très sensible. Puis un petit voile de nuages entre le sud-ouest et les régions centrales. Les températures, c'est un peu frais dans l'Est ce matin. On frôle le 0 degré du côté de Metz et de Nancy notamment, mais en cours de journée, très grande douceur partout. Température printanière entre 15 et 18 degrés et 18 à 20 degrés au sud de la Garonne.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise. Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'embrasement au Moyen-Orient, 48 heures après le début de l'offensive israélo-américaine sur l'Iran et l'inquiétude très vive des Français bloqués à Dubaï, à Doha et à Abu Dhabi, où des explosions ont encore été entendues ce matin. Un conflit parti pour durer. Donald Trump parle de 4 semaines et l'Iran pourrait bien avoir les moyens militaires de tenir, ce qui aura forcément des répercussions économiques, notamment à la pompe. Les prix du pétrole commencent déjà à flamber. Quel sort pour les Français bloqués au Moyen-Orient? C'est toute la question ce matin après un week-end extrêmement tendu et la riposte iranienne à l'offensive menée par Israël et les États-Unis. Riposte que l'on constate encore ce matin avec un mort à Bahreïn, des explosions entendues à Dubaï, Abu Dhabi et Doha où sont coincés des milliers de ressortissants français. C'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères convoque ce matin une réunion d'urgence au Quai d'Orsay. Il sera notamment question de leur possible évacuation. Mais en attendant, pour ceux qui sont sur place, Inès Zegloul, l'angoisse est forcément totale. Et lorsque j'appelle Awa, par exemple, elle décroche dans le hall de son hôtel à Dubaï. À peine le temps d'échanger quelques mots qu'elle s'arrête net de parler. Il y a des booms, dit-elle, 3 déflagrations.
J'ai juste vu une sorte d'énorme fumée noire. Je me suis mis à pleurer et je me suis mis à croupir et on est venu me chercher, quoi. On m'a donné de l'eau. C'est vraiment comme si c'était un peu l'apocalypse. Et on sait même pas les explosions viennent d'où. Ça peut être à 5 km comme à 20 km. Peut-être que ça va arriver sur ma tête. Peut-être qu'il y aura des débris. On se dit au secours.
Elle devait rentrer en France samedi. L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. Il faut trouver une solution, exhortent les expatriés. Ils sont plus de 20 000 à Dubaï, parmi lesquels Valentin.
On a tous préparé un petit sac ou une petite valise avec l'essentiel. Si demain on doit partir du jour au lendemain pour se faire rapatrier en France, quoi. Moi, j'attends l'appel pour le rapatriement aussi vite que possible. Ça peut être très bien demain comme dans une semaine. En fait, on nous communique très peu d'informations malgré tout par rapport à ça, quoi.
Alors les agences de voyage, les ambassades croulent sous les appels fermés. Les espaces aériens des pays du Golfe, c'est aussi en quelque sorte mettre à l'arrêt l'un des plus grands ronds-points aéroportuaires au monde. Étape presque obligatoire pour certains voyageurs. Résultat, des Français nous disent être bloqués également en Asie du Sud-Est, en Inde ou encore sur le continent africain.
Inès Zegloul pour RMC. L'angoisse aussi au Liban ce matin. Liban où Israël frappe depuis cette nuit. Un premier bilan fait état de 31 morts et près de 150 blessés. Et ce matin, ce sont des milliers de Libanais comme Tania qui sont contraints de fuir le sud du pays.
J'avais préparé mes valises, mais le temps que je mette mes valises dans la voiture, il y avait déjà des frappes à côté de chez moi. J'ai attendu que les avions passent et puis j'ai pu mettre mes affaires dans la voiture. Je compte partir chez des amis ou bien la famille, mais ça va être dur d'arriver parce qu'il y a trop de monde là.
Toute la population avec leur voiture, il y a des camions avec 5, 6, 10 personnes, il y a des gens qui marchent avec leurs affaires.
La situation s'aggrave. Je ne sais pas quand je vais rentrer dans le sud, je ne sais pas si cette fois je vais être épargnée. Personne ne sait.
Et de son côté, Téhéran rejette désormais toute négociation avec les États-Unis, ce qui augure d'un conflit possiblement long. Hier, Donald Trump tablait sur 4 semaines. Et c'est tenable pour l'Iran, selon le spécialiste Étienne Marcuse.
L'arsenal iranien est bien plus important que les arsenaux des pays européens. Ils ont très probablement plusieurs centaines, voire quelques milliers de missiles courte portée. Et probablement plusieurs milliers de drones comme ceux qui sont utilisés contre l'Ukraine. L'Iran est un pays qui se préparait à cette guerre depuis plusieurs décennies. Et donc, même si le coup a été très rude, ils vont garder une capacité à nuire aussi bien aux Américains, aux intérêts américains qu'israéliens dans la région.
Et un conflit qui s'installe dans la durée, c'est un conflit qui aura des répercussions économiques. On le voit déjà avec la flambée des prix du pétrole ce matin, plus 13% pour le baril qui dépasse désormais les 80 dollars. Conséquence directe de la fermeture du détroit d'Ormuz où transite 20% de la consommation mondiale du pétrole, Marion Degas.
Oui, puisque c'est ce couloir maritime qui relie les pays pétroliers du Moyen-Orient au reste du monde. Philippe Chalmin est spécialiste des marchés de matières premières.
Chaque jour, 20 millions de barils passent par Hormuz. On est quand même là en face de 1/5 de la consommation mondiale et 1/3 des échanges.
Plusieurs pays membres de l'OPEP espèrent alors amortir le choc en augmentant leur production de pétrole. Mais ça ne suffira pas, explique Jean-Louis Chilansky, expert pétrolier.
Les 200 000 barils jour qui sont promis par l'OPEP+, n'ont rien à voir avec les 20 millions de barils jour qui passent par Hormuz. C'est pas du même ordre de grandeur.
Alors en cas de fermeture prolongée du détroit, la hausse du prix de l'essence serait une conséquence inévitable. Un spécialiste me confiait qu'un dollar de hausse sur le prix du baril équivaut à 1 centime de plus sur le prix à la pompe.
60 navires français sont actuellement bloqués dans le détroit d'Ormuz. La France qui prendra des mesures pour défendre ses intérêts et ceux de ses alliés dans la région. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir lors d'un deuxième conseil de défense organisé à l'Élysée.
7h36, événement RMC ce matin, les grandes gueules en direct de Nice à moins de 2 semaines des élections municipales.
Là où se joue un duel fratricide entre le maire sortant Christian Estrosi et son ancien bras droit Éric Ciotti, désormais allié du Rassemblement National et favori selon le dernier sondage Elabe, une élection extrêmement stratégique pour lui, Romain Cluzel.
L'enjeu est double pour Éric Ciotti. D'abord, sur le plan national, faire de cette élection niçoise la preuve que l'alliance avec le RN fonctionne. Après son départ fracassant de LR lors de la dissolution en 2024, Éric Ciotti s'est retrouvé isolé, mais il en est persuadé, une victoire à Nice serait un déclic pour que de nombreux élus de la droite franchissent le pas et le rejoignent. Et puis, sur le plan local, c'est un duel fratricide avec Christian Estrosi, le maire sortant. Ils ont travaillé ensemble pendant des années, mais désormais, c'est la guerre ouverte. Chaque prise de parole ou presque est l'occasion d'attaquer l'autre. Et dans cette atmosphère plus que tendue, Christian Estrosi a retrouvé ce samedi une tête de porc accrochée sur le portail de son domicile avec une affiche antisémite. Une enquête a été ouverte et Éric Ciotti lui a apporté son soutien.
En Ligue 1, la course à la 3e place fait rage après la victoire 3-2 hier soir de Marseille face à Lyon. L'OM qui n'est plus qu'à 2 points de l'OL et du podium avec Paris et Lens en tête.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Caen.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 7, Koala Blue. L'outsider, c'est le 11, Joker de Choisel.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37. On continue évidemment à revenir sur les tout derniers développements de la guerre au Moyen-Orient. On est avec le général Dominique Trinquant dans un instant. Bonjour général.
Bonjour.
Vous êtes déjà dans ce studio. On va revenir notamment sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Une base française aux Émirats a été touchée par l'Iran. Le président français annonce un renforcement de nos capacités de défense et une défense active. On verra ce que ça veut dire dans un instant. Quelle sera la réponse française? Je vous pose la question. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France qui rehausse sa posture de défense au Moyen-Orient. Voilà l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Bonjour, général Dominique Trinquant. On va refaire le point minute par minute, j'allais dire, ce matin avec vous. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre livre, D'un monde à l'autre, c'est aux éditions Robert Laffont. Et c'est au fond ce qu'on est en train de vivre. On est en train peut-être de passer d'un monde à l'autre. Je voudrais revenir sur les tout derniers développements de la nuit. On va parler évidemment des explosions qui ont été entendues à l'aube ce matin. Jérusalem, Dubaï, Doha, Bahreïn, au Liban. Mais aussi cette déclaration conjointe de Berlin, Paris et Londres, les trois pays qui ensemble déclarent qu'ils sont prêts, je cite, à des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité militaire de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Est-ce qu'on est en train de rentrer dans la guerre?
Alors, on rentre dans la partie défensive de cette guerre, c'est-à-dire pas dans l'opération offensive américano-israélienne, mais nous avons des accords et nous avons des bases dans la région pour la France, Jordanie, Abu Dhabi en particulier. D'ailleurs, la base d'Abu Dhabi qui a été touchée, enfin la partie navale du moins. Et donc, on doit prendre des mesures pour défendre ça, défendre nos alliés et nous défendre. Alors, on a des moyens au sol, hein, je parlais d'Abu Dhabi, aériens, en Jordanie et à Abu Dhabi, mais aussi on a une frégate à la mer hein, qui permet d'intercepter des drones, des missiles de façon à limiter les dégâts dans cette région.
Il y a donc une forme d'alliance, elles ont parlé d'une seule voix, Berlin, Paris et Londres?
Oui, tout à fait, et même un autre élément, vous savez que on parle du détroit d'Hormuz qui risque d'être bloqué, mais il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb où il y a les Houthis qui sont des proxys iraniens qui sont là.
Proxy, ça veut dire des alliés au
des fond. Alliés, voilà, des alliés iraniens qui pourraient interrompre le passage de Bab el-Mandeb. Et il y a une opération européenne qui s'appelle EPID. On a décidé de la renforcer avec deux bateaux français qui s'ajoutent au dispositif pour escorter les bateaux de commerce qui passent par là.
Quand vous dites qu'il y a effectivement nos bateaux, on a évoqué un temps la possibilité que le Charles de Gaulle refasse route alors qu'il est aujourd'hui basé, ce porte-avions nucléaire français, dans la mer Baltique, près de la Suède. Donc c'est effectivement très loin hein, s'il reprenait la route. Est-ce que cette option est envisagée?
C'est une option à envisager. Si vous voulez, il y a deux options. Soit de dire, dans le cadre de l'OTAN, messieurs les Américains, vous êtes occupés au sud, eh bien nous avons le porte-avions, monsieur Trump, ne vous inquiétez pas, le Groenland, on s'en occupe, vous voyez ce que je veux dire comme message envoyé à monsieur Trump, soit de dire, les intérêts français risquent d'être menacés et on renvoie le porte-avions en Méditerranée pour assurer la protection en Méditerranée. Ce sont les deux options. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de décision qui a été prise.
Dans la nuit, Donald Trump a évoqué une sorte de calendrier. Il a dit que cette guerre, elle pourrait durer 4 à 5 semaines. Est-ce que d'abord c'est crédible? Est-ce que ça peut durer davantage? Ou est-ce qu'en 4 à 5 semaines, les objectifs, et d'ailleurs quels sont-ils, pourront être atteints?
Écoutez, je pense qu'il y a trois options. D'abord, les objectifs atteints, vous avez raison. Les dernières frappes frappent essentiellement le système de sécurité iranien. Passe d'Aran, police, répression des manifestations, etc. Donc, il va falloir évaluer où on en est arrivé. Le deuxième facteur, c'est la logistique, tout bêtement. Combien de missiles, combien de munitions dispose-t-on pour faire la guerre? 4 semaines, 5 semaines? Je pense que c'est les chiffres qui lui ont été donnés par l'état-major. Le troisième critère, c'est la pression interne américaine. Aujourd'hui, bon, une grande partie de la population américaine n'est pas pour cette opération. Il y a eu 3 morts pour l'instant. Le président Trump reconnaît. Il ne faut pas que les pertes augmentent trop, parce qu'à ce moment-là, il risque d'avoir une pression aux États-Unis qui risque de le pousser à limiter ses opérations.
Vous parlez de la question du nombre de missiles. Évidemment, la question, c'est quelles sont les capacités iraniennes, quelles sont les capacités américaines, et aussi la question du dôme de fer, ces fameux missiles antimissiles pour protéger notamment la population israélienne, ce qui n'a pas empêché qu'il y ait eu plusieurs victimes hier et des missiles iraniens qui ont malgré tout réussi à toucher le sol israélien. Combien de temps Israël peut tenir ? Est-ce qu'ils ont encore suffisamment de matériel ?
Alors oui, il y a Israël, le dôme de fer dont vous parlez. Il y a le porte-avions, rappelons-le, qui est en Méditerranée, qui est, dont une des missions est la protection. Nous avons les alliés, je parlais de la base de Jordanie. Déjà au mois de juin, les avions français avaient décollé pour intercepter des missiles. Donc il y a tout ce dispositif-là.
On peut aller aider, en quelque sorte ?
Oui, bien sûr.
Y compris les Israéliens, s'il le faut ?
Oui, parce que l'attaque contre Israël, bien sûr, Israël doit être protégé. Donc, c'est la lutte entre les capacités iraniennes de frappe et les capacités des alliés de protéger la zone.
Je voudrais qu'on puisse accueillir aussi Sylvie. Sylvie, vous êtes au téléphone avec nous de Ashdod, c'est dans le sud de Tel Aviv. Sylvie, comment se passe votre quotidien ? Comment s'est passée la nuit ?
La nuit, ça a été relativement tranquille du côté d'Ashdod. Dans le nord, ça a bougé pas mal. Ce matin, à 7h, ça a été une salve nationale. Ça a été un arrosoir de missiles, un arrosage de missiles. Toute la carte du pays a été mise de rouge. Ça a tiré en masse. Rebelote à 7h38. Ça tire de partout.
Vous êtes où au moment où on se parle, Sylvie ?
Je suis à Ashdod, moi.
Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez rester dans votre maison, vous avez un abri, comment ça se passe ?
Oui, de toute façon, la plupart, à partir de constructions remontant à plus de 25 ans, tous les appartements sont dotés de miklat, ce qu'on appelle la chambre de sécurité. Les maisons les plus vieilles, elles bénéficient ou de sous-sol ou d'entre-étage, ce qu'on appelle aussi les miklat. Et puis pour les vieilles bâtisses, sont mis à la disposition ce qu'on appelle des abris, comme hier à Beth Shemesh, ce sont des abris en extérieur.
Quand vous dites à Beth Shemesh, c'est là qu'il y a eu quand même 9 morts effectivement hier. Ouais. Comment réagissent, j'imagine que vous vous appelez les uns les autres, comment vous réagissez justement notamment à ces morts ?
Écoutez, c'est la guerre. Je vais dire quelque chose qui risque de vous choquer. On vient de sortir du 7 octobre. On n'a pas signé avec Gaza. Il y a le sud Liban. La guerre nous laisse un goût amer. On sait que c'est pour notre défense. Nous, on a un droit d'existence et on doit s'affirmer. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui était vraiment très menaçant, trop menaçant. Mais si on remet les choses en place, Israël, c'est 9,5 millions d'habitants. C'est une souris sur un dos d'éléphant. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. On est tout petit sur la carte. On est hyper puissant, mais on est menacé.
Et c'est effectivement ce que ressent la population israélienne. Merci en tout cas, Sylvie, d'avoir témoigné. Donc, Sylvie, au téléphone avec nous depuis le sud de Tel Aviv. Un mot d'ailleurs, Sylvie l'évoquait, le Liban, général Trinquant, entré dans la danse du Hezbollah hier, qui a tiré vers Israël. Israël qui a répliqué, le pouvoir libanais qui a condamné d'ailleurs plutôt les interventions du Hezbollah, reprochant au Hezbollah d'entraîner le Liban à nouveau dans une guerre qui n'est pas la leur.
Oui, et ça, c'est une bonne modification du langage du gouvernement libanais.
Ça m'a beaucoup frappé. Oui, c'est la première fois qu'il condamne d'abord le Hezbollah pour ses propres responsabilités.
Comme vous le savez, depuis la résolution 1701, en 2006, normalement, le Hezbollah aurait dû être désarmé. Ça a été très lent. L'ONU a mis une date finale, c'est-à-dire à la fin de l'année, fin 2026. La FINUL, où j'ai commandé un bataillon, devra avoir quitté, c'est-à-dire que le Liban doit avoir pris en main le problème du Hezbollah. Et je crois que le langage donc libanais est bienvenu. Ça veut dire qu'il condamne les actions du Hezbollah qui veulent entraîner le Liban dans la guerre, alors que le Liban ne veut pas rentrer dans cette guerre.
Merci beaucoup, Général. On aura beaucoup besoin de vous dans les prochains jours, parce qu'on le sent bien. On est effectivement au début donc de ce conflit. Je vous reprécise que Donald Trump a dit dans la nuit que ça durerait 4 à 5 semaines. Il est 7h50, on va continuer d'ailleurs à en parler avec notre voix de droite, parce que c'est lundi et c'est Charles Consigny. Bonjour Charles. Emmanuel Macron a dit n'avoir été ni prévenu ni impliqué dans les frappes israélo-américaines, et ça vous fait réagir, Charles?
Ce que je pense, chère Apolline, c'est que, alors même que nous avons une base militaire à Abu Dhabi, il est hallucinant qu'on n'était ni prévenu ni associé. Je crains que cela montre à quel point les grands de ce monde aujourd'hui font leurs affaires sans nous.
Vous nous le dites dans un instant, 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51. Dans un instant, la voix de droite, Charles Consigny, qui nous dira que la France a été un peu la grande oubliée de l'histoire. Mais d'abord le bonus, Charles, avec les Rolling Stones, pour commencer la semaine.
Et la chanson Gimme Shelter, dont vous entendez un extrait mythique, chanson de 69, au cœur d'un bras de fer entre les rockers et le clan Trump. Parce qu'on entend la chanson au début du documentaire Melania, consacré à la première dame des États-Unis. Documentaire hagiographique qui suit Melania Trump en coulisses dans les semaines qui précèdent l'investiture de son mari. Les Stones ne sont pas contents d'être génériques, alors le producteur du film affirme être dans son droit. Je vous passe les détails, les papys rockers assurent n'avoir jamais été ni consultés, ni donné leur aval. Et on rappelle que ce n'est pas la première fois. D'autres artistes se sont plaints de l'utilisation de leurs chansons par Trump, Taylor Swift, Sabrina Carpenter ou les Stones déjà, tiens.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h52 et c'est la voix de droite comme tous les lundis sur RMC. Charles Consigny. Charles, je précise que vous êtes en direct avec nous de Nice parce que les GG sont à Nice ce matin et que vous les accompagnez. On en parle depuis ce matin sur RMC, la guerre au Moyen-Orient évidemment, qui s'étend à toute la région. Et Charles, vous vouliez revenir sur un aspect qui vous choque, le rôle de la France ou le non-rôle de la France.
En tout cas, le fait que la France, par exemple, si elle avait voulu défendre la poursuite des négociations ou évacuer préalablement ses ressortissants ou essayer de prendre quelques mesures que ce soit, n'a pas pu le faire puisqu'elle n'a pas été du tout associée à cette opération. Moi, ce que je pense, c'est que de façon plus générale, on cherche dans la période récente la voix singulière de la France, cette voix singulière qui s'exprimait par la voix de Jacques Chirac quand il se mettait en colère dans les rues de Jérusalem. Cette voix singulière, bien sûr, qui était celle du général de Gaulle, mais sans remonter jusqu'à de Gaulle. Cette voix singulière qui était celle du leadership européen de Nicolas Sarkozy pendant la crise en Géorgie ou pendant la crise des subprimes. Eh bien, cette voix-là, moi, je la cherche et je pense que si elle a disparu, c'est parce que nous avons banalisé notre parole, notamment sur le conflit à Gaza, où nous avons certes porté tardivement la reconnaissance de l'État palestinien, et c'était une bonne chose, mais ça a été très tardif. Des milliers d'enfants étaient déjà morts. Nous avons été, à mon sens, extrêmement faibles sur la question de Gaza. Et nous avons, de façon générale, banalisé notre voix. Nous nous sommes soumis à plus puissants que nous et nous avons perdu cette singularité, cet équilibre.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous,
la
France ne compte plus, Charles ?
Je pense que nous avons perdu cette voix singulière, l'équilibre entre le Nord et le Sud dont nous étions capables, et puis aussi une voix morale, culturelle, intellectuelle qu'on était capable de porter, au-delà d'une voix d'ailleurs militaire, puisque souvenez-vous aussi des opérations Serval, Barkhane, au Sahel, qui étaient des opérations de grande complexité et de grand talent militaire de la part de la France. Et j'ai l'impression que tout ça s'est réduit un peu à peau de chagrin, parce qu'aussi notre pays s'est beaucoup affaibli sur le plan économique. Et donc moi, ce que je pense, c'est que les Français, là, doivent se demander ce qu'ils veulent choisir. Est-ce qu'ils veulent choisir de sortir de l'histoire, ce qui est en train de se produire, ou est-ce qu'ils veulent reprendre la plume de cette histoire et écrire de nouveau l'histoire de la France dans le monde ?
Vous dites qu'on est en train de sortir de l'histoire, mais enfin, on a tout de même la puissance nucléaire. Il en parlera d'ailleurs tout à l'heure Emmanuel Macron avec son grand discours sur la question du partage ou non, du parapluie nucléaire. On a notre siège permanent au Conseil de l'ONU, c'est pas rien, Charles.
Vous voyez bien que de façon quasi systématique maintenant, la France, mais d'ailleurs ça vaut presque pour toute l'Europe, n'est plus consultée ni par les Américains, ni bien sûr par les Russes, ni par les Chinois. Souvenez-vous de la dernière du dernier voyage d'État d'Emmanuel Macron en Chine. On sentait le président chinois tout à fait ennuyé et impatient que ça se termine. Donc on a, je pense, beaucoup perdu. On s'est laissé sortir d'Afrique de l'Ouest où on avait des bases militaires. On a accepté de tout fermer, de partir quasiment honteux et on se met à nous-mêmes des règles diverses et variées qui empêchent nos entreprises de concurrencer efficacement les Américains et les Chinois dans le monde, et on a une politique qui est beaucoup trop timide à mon sens à l'international. Je vous prends un seul exemple. Quand deux gendarmes français ont été arrêtés en Israël en présence du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot n'a rien fait. Il aurait dû quitter séance tenante le territoire sur lequel il se trouvait. Il ne l'a pas fait parce que il a été été faible. Et depuis quelques années, nous sommes faibles, mais nous sommes faibles aussi parce que nous manquons de moyens, parce que nous avons par ailleurs une économie qui est dans un très mauvais état, parce que la France dans son ensemble est démotivée. Et donc moi, je pense que c'est un ensemble et que si les Français se remettent à travailler, ils peuvent recommencer à espérer compter dans le monde. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on est spectateur des événements.
Retrouver une forme de rayonnement. Merci Charles. Charles Consigny, donc en direct de Nice, où vous serez avec les grandes gueules, avec Alain Marchal. Ça sera évidemment de 9h à midi, en direct et en public depuis la Villa Masséna. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour le journal de 8h. C'est frappe israélienne-Liban. Le conflit avec l'Iran qui s'élargit. La météo, le temps est sec et ensoleillé pratiquement partout. Et puis juste après le Noël, juste après le journal, l'économie avec vous, Pierre Rondeau. Pierre, l'embrasement au Moyen-Orient fait craindre le pire pour les prix du pétrole.
Oui, les prix vont certainement augmenter, tout dépend de la durée et de l'intensité du conflit.
A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.